le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, je suis avec Pauline Blanchet et Delphine Yachéchan au lycée Utrillo de Stein en Seine-Saint-Denis pour parler de la série documentaire Mémoire de Buchenwald. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Je m'appelle Pauline Blanchet, je suis professeure d'allemand au lycée Maurice Utrillo de Stein, en Seine-Saint-Denis. Ça fait 9 ans que j'enseigne ici.
Donc moi, je suis Delphine Yachéchan, je suis professeure documentaliste dans le même établissement. Et 9 ans, moi j'ai 13 ans, on est pas mal. Hein.
Eh bien, moi c'est Claire Latzag, et cette série Mémoire de Buchenwald, j'ai eu le plaisir de la co-réaliser avec Pauline, grâce à une résidence de la région Île-de-France qui a été coordonnée par Delphine dans le lycée. Et d'ailleurs, certains enregistrements ont même été faits ici, dans ce studio radio, qui est né grâce à cette résidence. Peut-être que tu peux en dire quelques mots, Delphine.
Donc c'est par rapport effectivement au projet de résidence de Claire qu'on a fait une demande de matériel. Et donc on a pu équiper le lycée d'un petit studio de web radio. Ce qui correspond aussi aux demandes de pas mal d'enseignants. Il y en a beaucoup qui aiment travailler avec ça et on en voit aussi le bénéfice chez les élèves. Ça les amuse beaucoup.
Et Pauline, toi, c'était la première fois que tu travaillais sur un projet radio ?
Oui, complètement. Ça amuse donc les élèves et les professeurs. Mais moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et que j'étais très contente de découvrir. C'est aussi, je pense, l'objectif de ces résidences, de nous faire découvrir d'autres choses, des objets qu'on ne maîtrise pas et auxquels on ne penserait pas forcément.
Alors, je vous propose qu'on écoute les deux premiers épisodes de la série Mémoire de Buchenwald, un projet sur la transmission de la mémoire au sein des familles de survivants de ce camp de Buchenwald, mené par les élèves du lycée Utrillo de Stein. À tout à l'heure.
À chaque fois que mon père allait faire un voyage, nous avons beaucoup voyagé, le matin du départ, il était pris de vomissements. À chaque fois. Je pense que c'est une séquelle de la déportation.
Non, j'ai pas le temps de manger chez moi, je passe au bateau. Ça va, vous allez bien les enfants ?
D'abord, il faut savoir que quand on est à la table familiale avec un déporté ou une déportée, il est très très rare qu'il ou elle en parle.
C'est bien fort en plus, tu prends deux comprimés et après tu n'as plus envie de vomir.
On a ramené toute sa formation.
Mais aujourd'hui, je m'en veux terriblement de ne pas avoir posé plus de questions. J'aurais dû poser les questions, j'aurais dû essayer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à qui je peux demander.
Vous pouvez passer une nuit ici, vous n'êtes pas douché, vous abusez. Bonjour madame.
Bonjour.
Buchenwald, ça m'a ouvert l'esprit. Bon, ça m'a fait rencontrer des gens passionnants. Ça me permet aussi de me dire toujours te plains pas, quoi, ça va, la vie est belle.
S'il vous plaît, vous aurez le temps de vous installer après. Installez-vous juste de manière à ce que je puisse vous compter.
2, 4.
Mémoire de Buchenwald. Un
documentaire des terminales germanistes du lycée Maurice Utrillo à Stain, accompagné de Pauline Blanchet et Claire Latzag.
Épisode 1. En parler ou pas ?
Je l'ai le même paragraphe que tout le monde ?
Ouais.
C'est ça.
Je ferai un montage de vos voix.
D'accord. Nous sommes les terminales germanistes du lycée Utrillo de Stain. Cette année, nous avons participé à un projet de documentaire sonore sur la transmission de la mémoire, de la résistance et de la déportation des camps de Buchenwald et de Ravensbrück.
Nous sommes allés dans différentes villes de France pour rencontrer des descendantes et descendants d'anciens prisonniers afin de recueillir leurs témoignages.
Nous avons aussi fait un voyage scolaire à Weimar pour visiter le camp de Buchenwald et interroger des témoins du côté des prisonniers allemands.
On s'est demandé comment avait circulé la parole au sein de leur famille.
En avaient-ils tous parlé ou y avait-il eu des silences ?
Anne Hessel, fille de Stéphane Hessel, a été la première à accepter de témoigner.
9e étage.
Bonjour. Bonjour.
Alexa.
André.
Alors, je m'appelle Anne Hessel. Mon père, Stéphane Hessel, a été résistant pendant la dernière guerre mondiale et a fini par survivre à cette période compliquée et a en tiré beaucoup d'enseignements pour sa vie future. Et la nécessité de convaincre ses enfants de poursuivre cette attitude générale dans la vie.
Oh, mais sinon, prenez le temps de...
Non, ça va, ça va être une longue discussion.
À quel âge avez-vous entendu parler pour la première fois de l'internement de votre père à Buchenwald ?
Ça faisait partie complètement de l'histoire familiale, au point que je suis son premier enfant, et quand je suis né, je pesais 1,8 kg. Alors, vous n'avez peut-être aucune idée, mais un bébé normal, ça pèse à peu près 3,5 kg. Et l'accoucheur a dit à ma mère, « Ah, un vrai enfant de déporté. » Ce qui était ridicule. Mais voilà. Donc la déportation de papa, le fait qu'il avait vécu ça et qu'il était sorti de cet enfer, ça a été présent toute notre enfance, depuis qu'on était capable d'entendre des histoires.
Je pense que tu peux commencer par des questions normales.
Pour c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui au petit déjeuner ?
Au petit déjeuner, j'ai pris de la chicorée, des tartines de pain et puis c'est tout.
Pour commencer, pourriez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Orlovski, je suis la fille de Jacques Pain qui a été déporté au camp de concentration de Buchenwald et qui a reçu le numéro matricule 38489 et il était au camp parce qu'il était résistant.
À quel âge avez-vous entendu parler de Buchenwald pour la première fois ?
Alors mon père a raconté son histoire à des collégiens, à des lycéens, pas avant les années 70-80, à moi, jamais. Maintenant, avec le recul, je peux dire comment peut-on raconter à ses enfants ce qu'on a vécu, où on a été quasiment réduit en esclavage. Je pense que c'est impossible à dire à ses enfants. Par contre, mon père a parlé de sa résistance à mon aîné, à notre fils aîné. Voilà.
Et j'ai pris conscience que chez nous, c'était pareil. Mon grand-père a dit beaucoup moins à ma mère, alors qu'elle est historienne, qu'à moi.
Franka Günther est la petite-fille d'un prisonnier politique allemand qui s'appelait Hans Neumeister.
Moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi plus chez mes grands-parents que chez mes parents. Donc c'était une évidence, je ne me souviens pas à quel moment on m'a fait comprendre que mon grand-père avait été à Buchenwald. Mais Buchenwald faisait toujours partie du langage familial. souvent pour le goûter, il y avait des camarades qui, comme lui, étaient restés à Weimar, qui venaient pour prendre le café. Moi, je jouais dans un coin, donc voilà, on savait que c'était ses camarades, on savait qu'ils étaient tous à Buchenwald, mais il n'y a pas eu un déclic ou un jour où il est venu me dire « Tiens, ma fille, voilà, j'ai été à Buchenwald. » Non. Non.
L'enregistreur, il était chargé à fond, je crois, ouais. C'est pas le cas. Il manque une barre. Okay. Bon. Au pire, j'ai des piles, hein.
Bah, c'est pas facile de raconter les choses et de rencontrer des gens qui racontent leur histoire.
Donc moi, déjà de nature, il faut savoir que je suis très timide, je suis très réservée.
J'avais peur un peu de manquer de questions.
Donc en vrai, ça s'est très bien passé quand même. Pour une première expérience, ça s'est très bien passé.
Cet engin, il sert bien pour écouter les gens.
Monsieur Durand, c'est quelqu'un de très agréable, qui a la joie de vivre, donc... C'était une belle rencontre.
Je suis le fils de Pierre et Jacqueline Durand. Pierre Durand qui a été donc déporté à l'âge de 21 ans au camp de concentration de Buchenwald pour fait de résistance. Quand il est rentré de Buchenwald, il a épousé Jacqueline Durand. Il est rentré en mai et il l'a épousé en novembre. Mais je suis né 3 ans plus tard. Et je pense que ce laps de temps est dû à la mauvaise santé de mon père.
Du coup, à quel âge vous avez entendu l'histoire de votre père ?
Il ne m'a jamais parlé de la déportation en direct. Il ne cachait rien, mais le milieu dans lequel j'évoluais, qui était un milieu politique, était un milieu où on ne parlait pas de la mémoire des déportés. Mais... ces déportés qui étaient jeunes avaient l'ambition qu'ils avaient pour la plupart acquise dans le camp où était mon père, Buchenwald, de changer la société. Pour qu'il n'y ait plus de nazisme, pour qu'il n'y ait plus les conditions de vie épouvantables qu'ils avaient connues dans le camp. Et donc ils voulaient construire un monde meilleur.
Vous étiez petit, vous étiez plutôt que vous voulez plutôt savoir de son histoire.
Alors là, je vais vous dire, vous, est-ce que vous interrogez vos parents pour connaître leur histoire?
Non.
Je crois qu'on ne parle pas de sa guerre dans ces générations-là. Mon père a peu parlé de sa guerre, sinon pour des raisons politiques, parce qu'il avait en tête son propre père qui avait fait la guerre de 14-18. Et l'une des choses qu'il a, il m'a dit, oh, il y en avait ras-le-bol de ces vieux cons qui passaient leur temps à parler de leur titre de gloire ou de pas gloire pendant la guerre 1914-1918. Et moi, je ne veux absolument pas être comme eux.
Est-ce que vous m'entendez ? Bah, c'est qui ça ? C'est Madame Blanchet. Bon. Alors. Ça y est, on est installé, on est parti. Je vous ai. Il n'y a pas de ceinture, mais vous accrochez bien votre voisin. Le voyage va être long. C'est pas grave. Reposez-vous, reposez-nous. Essayez de maintenir le volume sonore à un degré acceptable. Même vous, Nora. Elle m'entend plus. Bon. Bonne nuit.
Je m'appelle Tuveraka.
Et je m'appelle Imane. Nous avons interviewé M. Georges Beauchemin au siège de l'association Buchenwald, Dora et Commando à Montreuil.
Alors, mon nom est Georges Beauchemin. Je suis né au Québec.
C'est un ancien militaire et haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique au Québec.
Et il nous a partagé son passé, mais aussi celui de ses beaux-parents, François Iter, qui était soldat, et de sa belle-mère, Magda Rovella, résistante.
Ma belle-mère en parlait plus facilement, mais en racontant toujours les mêmes histoires, les mêmes événements un peu cocasses, pour en rigoler. Mon beau-père en parlait un tout petit peu. Il parlait de certaines petites anecdotes, toujours les histoires cocasses qui remontent à la surface, comme pour évacuer le sujet, si vous voulez, d'accord ? En disant, ah, il s'est passé telle chose, passe-moi le vin, ou passe-moi le fromage. C'était terminé, la discussion. Ils veulent pas tellement en parler, parce que c'est excessivement douloureux. Ils ont perdu des copains, ils ont vu des choses horribles. Et un jour, moi, il m'était arrivé des événements au Québec lors d'une prise d'otage où j'ai failli laisser la vie. Et donc, j'ai dû gérer cette prise d'otage pendant 56 jours, 56 nuits. Et j'ai eu à libérer 600 otages. Et donc, mon beau-père était arrivé le lendemain de ma mission. Donc, je ne l'ai pas vu. Il était venu visiter la famille. Je suis retourné 3 mois plus tard, une fois que mon travail a été fait. On a libéré les 600 otages. Et je le vois toujours sur la porte, les deux mains sur les hanches, en train de me dire « Mais t'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? On t'a pas vu? » Alors, je lui dis « Viens, on va aller marcher dans la forêt. » Et on a pris le chien, on est allé marcher. Alors, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Et là, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Tu es un frère d'armes. Maintenant, je peux tout te dire. » Et là, il m'a tout raconté, autant sa résistance que sa déportation. Mais c'est resté intime. Mais jamais il en parlait devant une tierce personne, si tu veux.
En fait, on s'est rendu compte que plein de monde, même des adultes qui connaissent l'histoire, en fait, ils ont tout de suite le réflexe de penser qu'on parle de la Shoah, alors que justement, non, c'était pas un camp d'extermination. Donc, on s'est dit qu'il manquait dans le premier épisode un petit texte qui dise un peu les spécificités du camp.
Ok.
Allez, c'est parti.
Buchenwald est un camp de concentration où se côtoient détenus de droit commun, opposants politiques au régime et ceux considérés comme étant au banc de la race.
Les marginaux, les alcooliques, les fainéants, les homosexuels, les tziganes et, bien sûr, les juifs.
Il a été conçu comme un camp de rééducation par le travail et non comme un centre d'extermination, même si on estime à 56 000 le nombre de morts.
Les prisonniers étaient de la main-d'œuvre à bas prix, loués à de grandes entreprises allemandes et corvéables jusqu'à l'épuisement.
À Buchenwald, les communistes étaient nombreux et peu à peu, ils ont réussi à prendre la main sur le camp et à organiser une résistance intérieure.
Mais ça, on en reparlera dans les prochains épisodes.
Et il y a aussi beaucoup de déportés qui n'en ont pas parlé.
Franka Günther.
Parce qu'ils voulaient épargner leurs enfants et ils ne voulaient pas que les enfants souffrent, ne serait-ce que par la parole, de ce qu'eux, ils ont souffert.
Mais par ailleurs, il nous racontait sa déportation.
Anne Essel.
Un peu comme il nous raconterait un camp scout.
Il m'a raconté des petites histoires pour enfants que je ne comprenais pas à l'époque.
Il fallait se débrouiller, il fallait se lever tôt le matin, il fallait pas bouger la nuit.
Il m'a dit, j'étais cachée dans un trou et il y avait un camarade qui lui a apporté sa nourriture.
Il fallait faire attention aux chiens qui quelquefois étaient lâchés sur vous et ça faisait mal.
Donc on joue au cache-cache, les enfants n'imaginent pas, enfin on imagine, on joue au cache-cache.
Mais il le racontait sur ce ton-là.
J'étais cachée dans un trou.
C'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'en fait...
Dans un trou creusé pour lui.
Au moins quand nous étions 13 enfants.
Pendant plusieurs jours.
Que c'était une période plutôt réservée aux débrouillards.
Je ne sais pas tout sur mon père.
Dominique Orlovski.
Par contre, je suis capable de raconter l'histoire de Buchenwald ou l'histoire d'autres camps. J'ai été formée pour ça. Mais l'histoire de mon père n'est que le début du fil qui m'a permis de faire le reste.
Alors, est-ce que vous êtes déjà rendu à Buchenwald ?
Eh bien non, figurez-vous.
Anne Essel.
Et si vous m'emmenez, je viens.
Ah, on vous invite au voyage.
Je vous préviens.
De quoi alors? beau. Je sais pas.
Ah non, mais là, on est là. On est à l'office de tourisme.
On va pas mentir. Non, nous, on voulait faire du shopping. Ouais, on voulait grave faire du shopping. Mais on se rendait pas compte, je crois, que c'était un voyage qui allait nous toucher comme ça, en fait.
Attendez.
On cherche où est-ce qu'on est là tout de suite.
Weimarplatz. Non, c'est pas ça. Marktplatz, non ?
Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur, en fait. Surtout qu'on était avec Anne et seule, du coup, et sa nièce.
Bonjour. Vous avez bien dormi ?
Très bien, merci.
Ça fait du bien. Oui.
Génial.
Vous êtes prêts ?
Ah oui.
Du coup, je me demandais ce que j'allais voir et ce que j'allais ressentir parce que Madame Essel nous avait dit que c'était, ça allait être très dur et qu'il fallait se préparer mentalement.
Épisode 2. Retourner à Buchenwald.
Là, on commence donc par le côté agréable, le mémorial. Donc, ceci n'est pas le camp, mais ce qui a été construit par la RDA. En commémoration en fait, des personnes qui sont mortes à Buchenwald, notamment des communistes. On part de la souffrance, on part de la mort pour remonter vers l'espoir avec un groupe de combattants et la tour des cloches qui annonce la victoire. Voilà, donc je voulais faire ce parcours-là. N'hésitez pas à prendre des photos. Il fait beau, profitez-en. Voilà. Alors.
Tourne à droite.
Je sais pas, faut que ça soit plus bas. Encore. Stop. Parce que là, on est bon.
D'accord.
Viens, on y va.
Alors, nous sommes dans une forêt. Derrière toi, Santia, il se situe une sorte de porte d'entrée au mémorial de Buchenwald. Et nous nous situons du côté mémorial, où c'est paisible, où il y a du soleil. Derrière moi, il y a une tour, mais avec une cloche. Nous verrons cela après. Ensuite, en descendant, nous avons des stèles représentant la souffrance. Actuellement, je fais une photo.
C'est, on dirait qu'il y a de la mélancolie mélangée à de la tristesse.
À de la souffrance.
Bon, maintenant je vais traduire ça en arabe pour ma mère. Maman, on est là à Buchenwald, et ma mère qui a fait jbel ou tout ça. Comment j'ai la neige déjà, j'oublie. Tu subbat tel jour tout ça, on a qui tu fais hakka. On voit tout ça, sma, subhanallah ou zina, ou tadarna Allah. C'est bon. Merci beaucoup.
Oh, moi aussi, je vais faire un vlog en chaleur pour ma grand-mère.
Tu veux faire un vlog en chaleur?
Asna, peux-tu nous dire ce que tu vois un peu?
Alors, je vois des sculptures. Enfin, il y a de la brume, donc on ne voit pas grand-chose. En tout cas, le paysage, il est vraiment incroyable. Il est super joli.
Et ça t'évoque quoi? Quelque chose de particulier?
Ça m'évoque une descente lente vers la mort, parce que je sais que c'est un camp de concentration.
Voilà. Merci.
De rien.
Lina, attends-moi! Je viens de faire interviewer! Hein? Enfin, j'ai dit de la merde! Bah, je pense que ce que t'as dit, ça va garder. Ça fait interviewable. Qu'est-ce que ça t'évoque?
Le penseur devant la mer des nuages.
Ça veut dire quoi?
C'est un tableau qu'on a vu en histoire des arts. Merci, monsieur Bazin.
Peux-tu le répéter, mais avec une voix.
Le penseur devant la mer des nuages.
Tu peux pas dire le penseur.
Cela me fait penser au penseur devant la mer de nuages. Vous êtes satisfait maintenant?
Oui, merci.
On va peut-être les... Ah bah attends, t'as besoin de ta feuille. On va les scotcher.
Vous allez bien?
Je vais bien.
Et vous? Très bien, avec votre présence.
Bon, mais c'est quand vous voulez.
Eh bien, on démarre quand tu veux.
Certains enfants de survivants ont visité Buchenwald dès l'adolescence, d'autres une fois adultes. Isabelle Winen, fille du médecin et syndicaliste belge André Winen, était encore une enfant quand elle a visité le camp pour la première fois.
Donc c'était en 1970, en septembre pour les Belges, et donc j'avais 8 ans. Comme c'est en avril, ça correspondait aux vacances de Pâques. Et donc, on partait en voyage à Pâques. Et on a fait ce voyage jusqu'à Weimar. Et on est arrivé en Allemagne de l'Est dans notre belle voiture américaine, toute rutilante parce qu'elle venait d'être peinte. Et on est arrivé au poste de douane. Et là, ça a été un choc. Ils nous ont fait sortir, on a battu le pavé le temps qu'ils fouillent la voiture dans tous les sens. On a dû sortir les sièges et ils ont inspecté les dessous de la voiture avec des miroirs. C'était super impressionnant de voir ça, parce que c'est vraiment des choses qu'on ne voyait pas du tout chez nous. Et il faisait sinistre. Comme tout était chauffé au charbon, tout était couvert de suie. Donc tout était gris, noir, il n'y a pas vraiment de couleur. Donc on avait vraiment l'impression de passer d'un monde de couleurs dans un monde de noir et blanc. Papa n'avait jamais parlé de son passé de concentration. Ce n'était pas implicitement dit, mais on le sentait. On savait qu'il y avait des sujets qu'il ne fallait pas trop aborder. Mais quand même, papa avait quand même raconté quelques histoires dans la voiture. Puis il nous a quand même expliqué que Hitler, c'était quand même pas un type très sympa. Et donc il y avait quand même cette chose un peu curieuse. Et il avait notamment parlé de cet hôtel éléphant. Éléphant pour un enfant, c'est quand même chouette. Et donc, on s'est fantasmé sur un bel éléphant, des choses comme ça.
L'hôtel Elephant, est-ce que vous le voyez ?
Cheval ?
Hôtel Elephant, exactement. L'hôtel du cheval, qui a dit ça ?
Non, mais c'est Elephant. Voilà.
C'est un des hôtels les plus anciens de la ville. Alors, vu comme ça, on dirait pas, non ?
Non.
C'est Hitler qui l'a fait refaire sur ses fonds personnels. Donc, pas avec l'argent du parti, mais avec son argent à lui. Oui,
madame. Voilà. Vous avez dit, c'est son argent personnel. Mais son argent personnel, il l'a tiré d'où ?
Il l'a tiré d'où ? Hitler, c'était quelqu'un qui était bien entouré, notamment par des industriels soucieux de combattre le communisme et qui voyaient en Hitler quelqu'un de sûr pour ça. D'ailleurs, ils n'avaient pas forcément tort. Hein. Henry Ford, ça vous dit quelque chose ? Une voiture qui, à chaque anniversaire d'Hitler, faisait un chèque de 500 000 Reichsmark, qui est l'équivalent à 500 000 euros. Mais à l'époque, ça représentait beaucoup plus d'argent.
C'est un beau cadeau.
Voilà, c'est un beau cadeau. Donc il a des fonds. Voilà. Est-ce que vous voyez une des chambres avec un balcon ? La seule chambre avec un balcon ?
Oui.
Vous le voyez ? Donc ça, c'est la chambre du Führer. Pourquoi le balcon ?
Comme ça, il parle à tout le monde.
Exactement, hein, c'était d'ici qu'il faisait ses discours. Vous avez certainement en tête ces images de rassemblement de foule. Et donc, c'est ces personnes qui se tenaient là-dessous, lui qui apparaît à son balcon, et tout le monde qui chante... Führer, Führer, komm raus aus dem Elefantenhaus, donc jusqu'à ce qu'ils sortent effectivement de la maison de l'éléphant.
On s'est retrouvés, donc ma sœur Catherine et moi, dans cette chambre, dans les toits, tout à fait défraîchis. Et puis on a eu peur, toute la nuit, on a eu peur, mais peur. Parce qu'on avait peur de voir Hitler arriver. On n'osait pas regarder en dessous du lit. On croyait qu'il y avait des nazis, qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on avait bien compris que ce n'était pas très sympa. Et donc, tout ça n'avait quand même pas favorisé une chose très, très facile à vivre pour un enfant. Et le lendemain, on se met en route, le but étant les commémorations. Et on remonte tous dans la voiture, on part, et rien qui est indiqué, pas de chemin. Et donc, on erre. Et on demande des chemins et personne ne nous explique où est le chemin pour aller vers le camp. Et puis à un moment donné, on se retrouve face à une énorme file de voitures diplomatiques, plus belles les unes que les autres, plein d'officiels. On s'arrête. Et mon père va et lui, il discute avec le premier, je ne sais pas moi, est-ce que c'était le chauffeur dans la voiture ou je ne sais qui. Mais alors, ils ont été très compréhensifs. Une fois qu'il avait dit qu'il avait été un ancien rescapé du camp, tout s'est ouvert. Et on a pu se mettre à la queue. Et on les a suivis. Et on est rentré triomphalement, entre guillemets, sur le site du camp. Et je crois que ça a été une petite satisfaction personnelle pour lui de revenir un petit peu comme un héros. Peut-être pas comme une bête dans un wagon à bestiaux comme on les connaît.
Comment
on va nous
dire, il y a des lettres.
Oui,
non, mais c'est...
Je commence à
voir. C'est quoi ça?
Attends, M, c'est un...
C'est
1000.
C'est
1000.
Et C?
En fait, 100. C, c'est 100, mais vu qu'il est devant le M, on doit faire moins 100. Du coup, ça fait 900.
1900.
Et il y a le 10 devant le L. L, c'est 50. 10, c'est 10, donc 40. Et le V, c'est 5. 1945.
Wow, c'est magnifique. Faut prendre ça en photo.
Non. Je suis à terre.
Et là, il y a écrit Yougoslavie.
La Yougoslavie ? Elle existe encore, là, c'était pas ?
Ouais. Polska. Et là, c'est la Roumanie. Roumanie. Et de l'autre côté, il y aura écrit Romania.
Alors si j'ai de la chance, j'ai entendu le bruit de la cloche. Bonjour madame.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous évoque cet endroit ?
Je sais pas. C'est une très belle journée, il fait très beau, c'est très agréable et à la fois très triste. Voilà. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque ?
C'est particulier, on voit pas ça tous les jours. Et on m'a dit qu'il y avait plein de sculptures carrées et qu'il y avait beaucoup d'escaliers.
Mmh.
Bah c'est vrai, c'est tout est carré.
C'est très communiste et très grand.
Et c'est difficile de se faire un avis dessus si on aime, si on n'aime pas.
Parce qu'on est là pour aimer, on est là pour se souvenir et commémorer. Commémorer.
À l'époque, c'était des grandes, énormes cérémonies.
Isabelle Winen.
Qui duraient des heures, parce que toute l'armée russe et tous les communistes étaient là. Et donc chacun y allait de son petit discours en haut du monument, là, cette grande tour. Et il faisait froid ce jour-là. Il faisait froid et on était glacés. Enfin bref, ce discours se termine et on arrive à l'essentiel. On arrive dans le camp, qui n'est pas du tout aménagé comme il est maintenant. Il était encore très, entre guillemets, dans son jus. Donc il y avait encore tout ce musée des horreurs qu'on voit en photo maintenant. Il y avait encore ces abat-jours avec les tatouages sur peau humaine. Ces expériences médicales dans des pots de formol, il y avait des cœurs, il y avait beaucoup de choses. Enfin, voilà, c'était quand même très impressionnant. Et dans mon souvenir, mais non, mes souvenirs ne sont peut-être pas non plus dans la réalité, parce qu'on emmagasine et parfois on s'approprie des choses. Et moi, j'ai l'impression encore qu'à l'époque, il y avait quelques ossements dans les foires crématoires. Mais à prendre avec des pincettes, parce que je ne suis pas sûre du tout de la réalité de ça. Et donc, effectivement, moi, j'étais la petite dernière, j'étais toujours accrochée à la main de mon père. Et on est au milieu de cette énorme place d'appel qui est dépouillée de tout, et donc le vent est froid. Et du haut de mes 8 ans, avec mes gants, mes moufles, mes chaussettes, mes pantalons, mes gros pulls, les manteaux, tout ce que maman nous avait mis sur le dos, j'avais encore froid. Mon père, lui, était probablement dans son souvenir et dans son propre ressenti. Et puis il me regarde et il m'a dit « Tu sais, tu n'aurais jamais survécu ici. » Alors déjà, la nuit qu'on avait passée, le truc, et puis entendre ça, c'est quand même beaucoup, hein, à 8 ans. Et donc, effectivement, j'ai gardé un souvenir horrible de cette première visite au camp. Et à tel point que pendant des années, j'ai refusé d'en parler ni de voir.
Bah, je voulais tellement savoir ce que les autres ont pensé et j'ai pas pensé à penser. Ça me dépasse. Je comprends pas comment on a pu faire ça. Alors que c'était pas il y a très longtemps. Oui.
Alex, ça t'aurait un mot à dire ?
Non.
Bien.
Quelques années après, et je ne sais pas comment ça a été obtenu, mais il a pu rentrer avec sa voiture dans l'enceinte du camp, donc entre les baraquements. Et c'était drôle parce qu'on est encore dans les années 90. Donc, l'ère des petits téléphones portables, smartphones, comme on les connaît maintenant, n'était pas. Mais lui, ben, avait un énorme téléphone dans sa voiture, avec une énorme batterie. Mais enfin, il avait ça. Et il m'a téléphoné en me disant « Devine où je suis ». Puis, je sais pas, tu es toujours à Weimar, vous rentrez demain. Et puis, et alors, il m'a expliqué « Tu te rends compte ? Je suis ici, en voiture allemande, Mercedes, et je roule là où on n'avait même pas le droit d'avoir une brouette avec une roue. » Il faut se déplacer et aller sur les lieux. Il y a beaucoup, effectivement, d'écrits, beaucoup de livres, beaucoup de reportages. Ils sont tous intéressants. Ils prennent leur importance et leur dimension quand on a vraiment été sur place.
Là, on vient de voir le mémorial, c'était super bien. Et là, on se dirige vers Buchenwald. Quand on arrive à Buchenwald, il ne faudra pas faire l'épître, parce que c'est très triste et très touchant. Et voilà. En plus, on est accompagné de la famille Essel. Du coup, il faut respecter.
Voilà, Frau Castillo, la famille et Marcel.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Vous êtes madame
Essel,
enchantée de vous connaître.
On ne peut pas du tout enregistrer non. Pendant la non. Visite.
D'accord.
Non, non.
La suite de notre documentaire « Mémoire de Buchenwald » au prochain épisode.
C'était « Mémoire de Buchenwald »,
un documentaire sonore réalisé par Pauline Blanchet
et Claire Latsag.
Prise de son et interview
Sana Abderid,
Aya Ahmad,
Dikra Arstim,
Nora Bengarali,
Amina Falkeita,
Tony Gonsalves,
Abdallah Amouda,
Bastien Card,
Grace Lig,
Imen Louzi,
Alexa Minich,
Ahmed Mohamed,
Andrei Negutsoyou,
Bridget Pembelen Sigani,
Kemaline Ramachandran,
Sandhya Ramamurti,
Marwa Smaili,
Tuveraka Vineswaran
et Louis Weng. Mixage, Étienne Gracianet.
Récréation sonore.
Je suis donc avec Pauline Blanchet et Delphine Yachéchan pour reparler de la jeunesse de Mémoire de Buchenwald. Peut-être que Pauline, tu peux expliquer d'où est venue cette idée.
Moi, j'avais comme projet au départ de faire un voyage scolaire. Je savais que je voulais emmener mes élèves en Allemagne. Et comme Delphine m'a dit que cette année, on avait quelqu'un en résidence pour travailler avec la radio, que c'était formidable. Je me suis dit qu'on pouvait aller à Weimar avec un projet radio. Weimar, parce qu'à Weimar, il y a plein de choses à faire autour de l'allemand. Et aussi parce que parmi mes amis, j'avais quelqu'un dont le grand-père a été déporté à Buchenwald. Je m'étais dit qu'on pouvait utiliser l'objet radio pour aller interroger des descendants de déportés sur ce que leurs parents leur ont raconté ou non de leur expérience concentrationnaire. On peut craindre la réticence de la part des personnes à qui on va présenter ça parce que c'est pas très rigolo, parce que c'est pas très, forcément très enthousiasmant, parce qu'on se demande si ça va intéresser les gens. Et puis Delphine m'a tout de suite rassurée en me disant « Mais écoute ce qu'a fait Claire, je pense que c'est des questions qui peuvent l'intéresser. » Alors c'est ce que j'ai fait. Et en découvrant ton travail, je me suis dit qu'effectivement quelque chose était possible et que j'avais frappé au bon endroit.
Et Delphine, je te vois noter plein de choses sur ta feuille. Est-ce que ce que dit Pauline te fait penser à quelque chose ?
Bah forcément, parce qu'en fait, donc moi je crois fortement dans ces dispositifs de résidence. Les résidences, ça permet un travail sur le temps long. C'est-à-dire que, moi le conseil que je donne à tous les résidents qui passent au lycée, c'est de traîner en salle des professeurs, d'essayer de manger avec les autres collègues, parce qu'en fait, les profs sont des petites choses un petit peu peureuses. Désolée pour tous les enseignants qui m'écoutent. C'est très difficile de rentrer dans leur salle de classe et qu'ils fassent confiance à un autre intervenant. Et donc, le fait de pouvoir côtoyer, de pouvoir prendre le temps, de ne pas se décider tout de suite, de construire un projet sur l'année, de voir la personne avant de se décider à se lancer dans un projet... c'est la meilleure façon de faire parce que tous les profs sont pas intéressés ou par des projets, c'est pas forcément dans leur façon de travailler. Ils peuvent avoir peur de se lancer. Donc, les rassurer, ça leur permet de trouver quelque chose qui peut après leur plaire. Et donc, pour les élèves, pour les profs, pour les auteurs, c'est top. Donc, c'est vraiment un type d'activité que j'aime faire venir dans l'établissement.
Bah, j'ai envie de rebondir sur l'idée du temps, parce que donc, c'est un projet qui s'est fait sur une année scolaire pour les prises de son. Et à la fois, il a démarré tout de suite, dès la rentrée, vraiment, on s'est connu quasiment le jour de la rentrée, et quelques temps après, les élèves étaient déjà en autonomie, en train de faire les premières interviews. Le fait qu'on puisse y consacrer une année au niveau de la construction du projet, puis ensuite, sur la partie montage et réalisation, une année supplémentaire parce que je suis lente. Moi, je pense que ça a été bénéfique. Alors, c'était pas forcément ce qui était attendu, parce qu'on aime bien à l'école que les projets se fassent dans l'année scolaire. Là, en plus, c'était des terminales, donc ils partaient l'année d'après. Et pourtant, en fait, on garde encore des liens avec eux. Ils sont encore là pour le service après-vente. Parce que ce projet a voyagé, il a été invité au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, au Festival Passeur d'Histoire, au Mémorial de Verdun. Enfin, ils ont été là même après ça. En tout cas, ce temps était hyper important dans le fait que l'œuvre finale soit bien réalisée. Mais ça reflétait aussi le temps qu'ont pris les élèves, parce qu'ils sont venus sur leur temps libre.
Tout à fait, c'est ça qui... Enfin, c'est génial de voir qu'ils sont encore là, alors que ça fait maintenant 2 ans que la résidence est terminée. Mais c'est pas si étonnant que ça, parce que le projet, il a été fait vraiment par les élèves sur les moments où ils n'avaient pas cours. Toutes les interviews ont été faites le mercredi après-midi, sur les week-ends. C'est vrai que ça a créé aussi avec les élèves un autre rapport. Et ça, c'est un projet scolaire, mais qui a pris une dimension autre, presque dès sa création.
Oui, et c'est pour ça. Moi, en fait, j'avais envie, depuis longtemps, je m'étais dit que la résidence au lycée, elle me permettrait de faire entendre des élèves en train d'apprendre à faire de la radio. C'était un objectif. Je ne savais pas comment ça allait... se formaliser, dans quel projet ça allait pouvoir se faire. Et en fait, là, ça m'a semblé évident que c'était ça. Et c'est ces moments-là qui donnent aussi tout l'aspect vivant, qui font qu'on est dans une façon de parler de la mémoire hyper vivante, hyper actuelle, et puis qui met en valeur aussi les élèves, vraiment la façon dont ils s'approprient aussi bien l'outil radio que ce sujet de mémoire qui, a priori, était hyper éloigné de leurs préoccupations au départ.
Mais bon, la prochaine fois, il faudra faire une émission sur des élèves en train d'apprendre de l'allemand. Ça, j'ai bien compris.
T'as eu des retours négatifs sur ce sujet, Pauline?
Non, non.
Un des intérêts aussi de la résidence, c'est qu'il y ait quelqu'un qui a un savoir-faire. En général, au lycée, on fait quand même majoritairement venir des auteurs de BD. On est aussi un lycée polyvalent, donc ça permet de travailler avec un public très varié, de ne pas faire peur aux élèves avec des auteurs qui auraient écrit des romans de 500 pages, voilà. On a fait venir aussi une autrice de théâtre. Donc vraiment, on essaye de réfléchir à des formes littéraires qui soient un peu pas intimidantes. Et donc à chaque fois, il y a quand même justement une technique. Il y a un pas de côté qui est fait par rapport au savoir scolaire, mais qui permet d'enclencher des choses dans la classe, quoi.
Si tu veux en profiter pour parler du problème, de la problématique des langues, et notamment de l'enseignement de l'allemand au lycée.
Ah oui, parce que tout en découle. Enfin, si je fais des projets, si je fais des voyages, c'est aussi pour essayer de donner un petit peu de souffle à cette matière qui en a bien besoin. L'allemand va mal, on a du mal à avoir des élèves, on a des conditions d'enseignement qui sont de plus en plus dégradées. Et du coup, faire des projets, ça sert déjà à leur donner envie d'apprendre l'allemand. Il nous manque l'étape d'après où on met vraiment les choses en place. Mais au moins, je me dis, si j'ai réussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement dégoûtés et qu'ils aient un petit peu d'intérêt pour le pays, la matière, le fait de dire quelques mots en allemand, c'est peut-être juste un premier pas, mais il est important.
Mais justement, dans notre projet, on a quand même fait entendre de l'allemand. C'était ça le but aussi, c'était d'aller rencontrer des descendants de survivants en Allemagne.
Mais d'autant que c'était ce qui motivait le projet pour un professeur de langue. Enfin, moi, je voulais qu'ils aillent en Allemagne, poser des questions en allemand à des témoins, les mettre vraiment en situation de communication et en plus apporter un aspect de découverte de toute l'histoire de la déportation, mais aussi l'après, ce que c'était de vivre en RDA, ce que c'était de vivre en RFA après, avec ces histoires-là, On a eu la chance d'avoir des témoins germanophones ayant vécu pour certains en RDA, d'autres en RFA. Ça pouvait être très riche pour les élèves en termes de culture.
Mais depuis tout à l'heure, on prononce beaucoup le mot projet. Donc, je voudrais revenir un peu dessus parce que donc, en tant que professeur documentaliste, je fonctionne beaucoup par projet. Et en même temps, c'est un peu un mot problématique parce que justement, il y a eu de la part de l'institution le fait de faire une pédagogie de projet, pour avoir des moyens, il faut qu'on ait des projets. Là, on enregistre au mois d'avril. Ça va bientôt commencer les demandes pour les projets de l'année prochaine. Et ça s'arrêtera en mai. Enfin, donc, il faut prévoir. Enfin, là, ce projet de résidence avec Claire, on l'a prévu plus d'un an à l'avance, quasiment, en fait. C'est un travail qui est compliqué. Beaucoup de profs sont la tête sous l'eau. C'est un peu pourri, ces histoires de projets, parce que... Il y a tout ce côté-là qui est vraiment malsain, qui pose des problèmes au sein de l'éducation nationale. Et en même temps, de l'autre côté, on voit notamment dans ce cas-là que c'est un levier. Quand ça prend, c'est vraiment cool parce que du coup, on voit la joie d'apprendre. Ça crée même des besoins. Là, tu parles de discuter avec des germanophones. Ils ont envie d'aller plus loin dans leur podcast. Donc, ils ont le besoin d'apprendre. Enfin, pareil sur la radio. Ils se disent « Ah bah tiens, c'est intéressant ce qu'on fait, mais j'aimerais savoir faire ça. » Et donc, c'est aussi émancipateur parce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils peuvent apprendre, seuls, avec les autres, etc. Enfin, qu'ils sont capables d'apprendre encore au-delà, des choses qui sont en dehors de l'école. Du coup, sur ces projets, il faut bien séparer juste le fait que ça va me permettre de cocher les petites cases de mon institution et ça apporte vraiment quelque chose. Mais en fait, en vrai, ça se sent. Je crois qu'en fait, on le sent, même si on n'y réfléchit pas, on le sent.
On n'a pas du tout parlé des différents témoins qui ont participé. Pauline, est-ce que tu veux expliquer un peu comment se sont faites les rencontres ou le casting? Il n'y a pas vraiment eu de casting.
En fait, t'es pas moi la directrice, hein, mais je suis partie d'une connaissance personnelle. C'est ce qui m'a donné l'idée, l'impulsion et qui m'a fait dire que ça pouvait marcher. Et puis après, j'y suis allée un peu à tâtons. Je viens de Blois, j'ai contacté bêtement le centre de la résistance de Blois et c'est eux qui m'ont donné un carnet d'adresses, des premiers contacts de personnes qui faisaient partie de l'association Buchenwald Oreille Commando et c'est par cette association qu'on a trouvé la plupart de nos contacts. Mais il y a eu aussi des rencontres vraiment dues au hasard. J'accompagnais, vous allez dire que je fais beaucoup de sorties, c'est vrai, et j'accompagnais une sortie à Stein. On emmenait des élèves dans la maison de retraite de Stein pour interroger un projet de SES. Dans ce cadre, on rencontre le directeur de l'EHPAD. Et je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais là, je comprends que son arrière-grand-père était résistant, déporté à Buchenwald. Je saute sur l'occasion pour lui demander son numéro de téléphone et l'emmener avec nous dans le projet. Enfin, ça a été vraiment un mélange de contacts qu'on m'a donnés, tout simplement, et de rencontres. Fortuite.
Oui, ça s'est confirmé tout au long du projet. Des gens qu'on rencontrait, ou même depuis qu'il est diffusé, maintenant des gens qui nous disent « Ah, mais en fait, mon grand-père aussi, il a été à Buchenwald. » Comme c'est vraiment sur la transmission au sein des familles, de voir que ça peut arriver aux oreilles d'autres descendants de survivants. C'était aussi peut-être un des objectifs de ce projet. En tout cas, c'est une belle issue du projet. Et aussi, quand vous écouterez les épisodes suivants, vous allez découvrir d'autres intervenants. Il y a aussi Fabien Pontanier qui nous a aidés pas mal. On peut parler de lui peut-être?
Alors Fabien, on a emmené les élèves aux archives nationales. Et aux archives nationales, il y a un dispositif avec un professeur relais. Et le professeur relais, c'est Fabien Pontanier. Fabien Pontanier, il est professeur au collège juste à côté. Il y a beaucoup de nos élèves qui viennent de ce collège-là, qui l'ont eu quand ils étaient collégiens. Il nous a donc accompagnés sur le projet. Il était content de retrouver des élèves qu'il avait eus avant. Non seulement ça nous a permis d'armer un petit peu le projet pour tout ce qui était histoire, puis en plus ça a créé chez les élèves. Enfin, ils étaient contents de le retrouver, ça s'est entendu. Il nous a emmenés à travers Stein pour faire un parcours mémoriel dans Stein, pour montrer Stein dans la résistance. Il nous a accueillis aux archives nationales. Là aussi, c'est tellement pratique. On est juste à côté, en 10 minutes, on y est, à pied. On contacte ce professeur relais, on dit voilà, on aimerait travailler là-dessus, on recherche des documents là-dessus. Il nous prépare tout, il nous sort les boîtes, il prépare pour les élèves des feuilles de travail. Enfin, pour les enseignants, c'est une mine d'or, vraiment, les archives nationales. Et le travail avec Fabien, ça a été aussi un aspect très important, et pour les élèves et pour moi.
Oui, et pour les élèves, c'était incroyable d'avoir accès à ces documents, de trouver ces documents d'archives, ces photos, de les consulter, de manipuler vraiment tout ça. C'était un moment qui a été, je pense, qui en a marqué plusieurs.
Et là aussi, ça crée un autre rapport à l'enseignement de l'histoire, à ce que c'est que l'histoire. C'est pas juste des livres. Bon, là, je sais même pas si on a encore des manuels, mais enfin des bouts de photocopies éparses pour lire des textes et répondre à trois questions. Là, c'est vraiment les documents originaux qu'ils ont pu manipuler. Et ça, on l'entend bien aussi dans le documentaire.
Fabien insistait beaucoup sur le fait qu'on a tous des archives et que chez eux, certains objets étaient les archives de leur histoire familiale. Et ce projet était aussi une façon de les faire approcher cette question-là de leur propre histoire familiale, d'où ils venaient, quelles étaient les traces que l'histoire, la grande histoire, avait laissées sur la petite histoire de leur famille. On entend les élèves réaliser ça aussi au fil du projet.
Mais en fait, le travail sur la mémoire de la famille, c'est un sujet qui, depuis les 13 ans que je suis ici, revient très régulièrement comme projet par les professeurs. Donc, je repense à une collègue d'histoire géo qui nous a quittés pour aller travailler justement sur un projet sur l'histoire du logement populaire. Nos élèves sont les premiers concernés. Et en fait, quand elle parle de ce projet de musée, elle parle du fait que nos élèves ne se reconnaissent pas dans ce qui est montré en général de cette grande histoire, en fait. Elle passe par l'histoire du logement avec les HLM, etc. Il y a eu des tas de travaux aussi qui partent d'archives. Effectivement, le projet que cette année, une collègue en histoire géo à nouveau a mené sur des élèves qui devaient ramener une archive, donc papier ou pas. Ils ont fait un petit marché de la connaissance autour de ces documents. Mais c'est vraiment des sujets qui souvent sont capables de mobiliser les élèves et qui sont enthousiasmants parce qu'en fait, nous, on y apprend des choses.
Moi, je voulais juste réagir à ce que venait de dire Delphine. Enfin, Alors, c'est vrai que c'est bien de raccrocher les élèves à des choses qui les touchent, dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Mais moi, ce qui m'a beaucoup rassurée sur ce projet, c'est qu'au contraire, c'est pas leur histoire, c'est pas la mienne non plus, et on peut tous s'en emparer. J'aime beaucoup l'idée d'une universalité et que vraiment, les élèves sont pas que des élèves de Stein. Et c'est bien. Enfin, ils sont pas que d'origine algérienne, ils sont pas que d'origine congolaise. C'est des gens et ils peuvent tous s'intéresser à tout.
Ouais,
et
ouais.
Ouf.
Non, mais je suis d'accord, c'est effectivement pas ce que je voulais dire. C'était...
Non, mais moi, c'est...
Mais ce que tu dis, je suis complètement d'accord.
Et ça m'a fait du bien de voir ça, parce que franchement...
Ah oui, non, mais...
Et ce qui a vraiment donné aussi un nouveau tournant qu'on n'avait pas prévu à la base, c'est cette rencontre avec Anne Hessel, qui décide de nous accompagner en voyage à Buchenwald. Dans les épisodes suivants, elle est toujours là et ça va... est-ce que tu veux bien raconter quelle est l'orientation que ça a donné à ce podcast ?
Le fait qu'elle nous accompagne à Buchenwald et que ce soit pour elle aussi la première fois qu'elle s'y rende, c'était très fort pour elle et pour les élèves parce qu'ils l'ont perçu. Ils ont perçu toute cette dimension très forte émotionnellement. Il y a eu un vrai partage entre elle et les élèves qui m'a paru très beau et dont le documentaire rend bien compte. Je crois qu'on l'entend, ça.
Et qui fait qu'après, certains élèves ont retrouvé la trace de l'échange d'identité entre son père, Stéphane Hessel, et Michel Boitel, un détenu qui est mort du typhus à Buchenwald. Et que la fin de notre projet va être comment rendre hommage à ce Michel Boitel dont on savait très très peu de choses.
Oui, ce sont les élèves qui, au musée du mémorial, sont tombés sur des documents relatifs à Stéphane Hessel. Cette histoire les a passionnés parce que c'est une histoire très rocambolesque. Là aussi, ça tient de la série, hein. Des histoires d'évasion, de changement d'identité. Enfin, c'est une histoire passionnante. Et le fait qu'ils se prennent au jeu, on est revenu au sens premier de l'histoire. Faire une histoire, c'est faire une enquête. Et les élèves, là, avaient quelque chose à chercher, avaient quelque chose à construire. Et ça aussi, ça a été formidable et ça a redonné du souffle. Ce n'était pas juste des interviews juxtaposées de témoins, qui étaient déjà très intéressantes en soi. Ça s'est transformé en enquête, en parcours, aller à Amiens, retourner à Amiens, faire un petit peu le coup de force à Amiens pour essayer de faire poser une plaque, ce qui n'était finalement pas si facile que ça, on s'en est rendu compte. Que les élèves aient participé à tout ça ou que Moi, j'ai participé à tout ça parce que pour moi, c'est très nouveau aussi. Hein. On ne pose pas des plaques tous les jours pour des déportés morts à Buchenwald. Ça a été une histoire assez, assez unique.
Je crois que les élèves, ils sentent toujours la sincérité. C'est vraiment un truc qui marche à tous les coups. Là. S'il faut des recettes pédagogiques, je crois que ça, c'est le seul truc dont tu parlais là, avec Anne Hessel. Je pense que c'est immanquable.
Et on a eu de la chance d'avoir des personnes en face de nous. Enfin, tous les témoins qui nous ont répondu ont su parler aux élèves. Déjà, c'était des gens qui parlaient bien. On l'entend, je crois, ouais. Aussi dans le documentaire. Mais Anne Hessel, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les élèves. Et pourtant, elle n'a pas leur âge, elle ne vient pas de leur milieu. Et ça s'est très, très bien passé. Ça aussi, c'est rassurant.
Merci beaucoup, Pauline et Delphine. On peut peut-être rappeler que ce projet continue son chemin.
On a un rendez-vous la semaine prochaine. Le 11 avril, c'est donc la date de la découverte et libération du camp de Buchenwald. On ira avec une nouvelle classe, une classe de seconde, chanter, participer à ces commémorations-là. On sera à l'Arc de Triomphe, au Mémorial des Martyrs et au Père-Lachaise donc vendredi prochain. Et 6 des anciens élèves du projet nous rejoindront. Et tu seras là aussi, Claire, encore avec Anne Hessel. Et donc, le projet fournit toujours des occasions de se retrouver.
Et il y aura aussi un temps fort à la médiathèque de Stein où nous pourrons faire une écoute publique. Et puis on retourne à Blois en octobre, il me semble.
Oui, on est à nouveau invité au rendez-vous de l'histoire pour présenter notre travail fini. Et puis la médiathèque, t'as raison, ça sera l'occasion de présenter le travail là où habitent les élèves. C'est super. Alors c'est super d'aller à Verdun, c'est super d'aller à Blois, mais un moment à Stein, c'est très important pour que les parents puissent voir ce que font leurs élèves, leurs enfants, pardon.
Ben merci beaucoup Pauline et Delphine. Récréation sonore, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter l'émission mardi à midi sur Radio Campus Paris en DAB+, et la retrouver à partir de mercredi sur notre site www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
La semaine prochaine, vous retrouverez Jérôme Massella aux commandes.
Allez,